Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et aujourd'hui, j'accueille un homme polyvalent, multitalentueux, avec lequel nous allons faire connaissance. D'une part, avec son premier roman sorti l'an dernier, en 2025, premier roman qui a pour titre Colzam. Il est aussi peintre et puis il est aussi musicien et chanteur du groupe Blancas. On va y revenir. C'est Guillaume Ledoux que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Guillaume Ledoux.
Bonjour Yannick.
Alors, cher Guillaume, je l'ai dit à nos auditrices et auditeurs, vous êtes le chanteur d'un groupe alors que je connais de nom. Depuis, je suis allé écouter, voir quelques clips vidéo via Internet. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a un titre du groupe Blancas qui date de quelques années, qui s'appelle Les Champs de blé ou
Champs de couleur des blés.
La couleur des blés.
Exactement.
Et c'est amusant parce que votre premier roman, paru au Cherche Midi, a pour titre Colza.
Exactement.
Alors, un petit mot sur le groupe Blancas.
Le groupe Blancas est né en 1990. On sortait d'une aventure avec mon frère est guitariste du groupe, Johan, et on sortait d'une aventure assez incroyable avec un groupe de mômes qui s'appelait Zéro de Conduite, que nous avions fondé tous les deux à Issoudun dans l'Indre, et ce groupe a été s'est retrouvé dans des situations incroyables pour l'époque, à faire la première partie de U2, des Clash, à inaugurer le Zénith de Paris, être invité par Serge Gainsbourg. Enfin voilà, c'était on a eu vraiment une enfance musicale assez étonnante. Et puis quand on a grandi, on a monté un autre groupe qui s'appelle Blancas. Et on a sorti notre premier album en janvier 96, et avec ce titre dont vous avez parlé, La couleur des blés, qui est sorti en premier single et qui s'est mis contre toute attente à rentrer sur toutes les radios de France. Et voilà, et on s'est retrouvé aux Victoires de la musique, on s'est retrouvé à faire une tournée de 150 concerts, et puis depuis on n'arrête pas, et là on est en train de préparer notre 8e album.
Donc Blancas est toujours frais, groupe frais,
oui,
jeune.
Ça se boit toujours frais normalement, Blancas.
Alors Blancas, bien sûr, allusion au Blancassis, une invitation à
alors
boire.
Alors c'est une hérésie ici en Bourgogne, hein. En Bourgogne c'est un kir, mais bon voilà. Dans les troquets de campagne, on appelait ça un Blancas.
Oui, c'est vrai, le Blancas. C'est peut-être un peu familier de dire le Blancas par rapport au kir,
voilà.
Le bien nommé. Alors, Guillaume Ledoux, Colza, aux éditions Le Cherche Midi. Avec ce premier roman, nous sommes dans une France rurale, pays de colza. Hein, votre héros voit la vie en jaune, lui, par rapport à l'immensité, la platitude des champs de colza qui environnent la ville où il habite. Une ville d'ailleurs qui n'a pas de nom, de même que le héros n'a pas de prénom.
Non, c'est vrai.
La ville, pourquoi autant d'anonymat?
Parce que c'est l'histoire.
Physique,
c'est
alors, le portrait moral, intellectuel, il est tout au long du roman. Mais ce garçon, il faut le dire, il a 22 ans.
Oui, par là, je crois.
Il galère un peu.
Oui.
Il a pas fait d'excellentes études. C'est pas un mauvais bougre. Il côtoie beaucoup de cas sociaux.
Oui.
Un peu trop les bars.
Oui.
Le narval et la coquille.
Ouais.
Et c'est l'histoire, en fait, aussi d'une vocation d'écrivain provincial, comme il le dit lui-même.
C'est pour ça que ni lui, ni la ville n'est nommé. Parce qu'en fait, c'est une histoire, comme vous l'avez dit, Yannick, de ruralité, d'amitié, et on parle de littérature et de passion. Et cette passion, il la cache parce que notre personnage pense que là où il habite, là où il vit, on n'écrit pas des livres, quoi. Vraiment, c'est, voilà, quoi. Et donc, Et donc on va suivre ce questionnement, ce cheminement, cette découverte finalement d'une réelle vocation. Et comme je pense que cette histoire peut arriver partout et qu'on peut s'identifier, si tant est qu'on s'intéresse un peu à la littérature et qu'on a un peu envie d'écriture, hein, ça nous titille tous un petit peu quelque part l'écriture.
C'est-à-dire en fait, Guillaume, cette histoire du provincial qui a envie de réussir m'a rappelé le destin de beaucoup de héros balsaciens ont de l'ambition. Alors certains veulent une réussite financière, certains veulent une réussite poétique, romanesque. Il y a un petit côté 19e siècle aussi, quelque part, par certains aspects.
En plus, Balzac est très important chez nous à Issoudun. En fait, moi j'ai grandi à Issoudun, donc une petite ville entourée de colza, et j'avais besoin pour dresser le tableau de lieu, voilà, d'un cadre, et je me suis servi comme souvenir effectivement de lieux précis d'Issoudun, de bars, de surnoms, de personnages, toute cette bande de pieds nickelés là. Et Balzac est très important parce qu'il a écrit plusieurs romans à Issoudun. Il avait une amie qui s'appelait Zulma Caro, qui avait un petit château à Issoudun, et donc il y séjournait très souvent. Donc effectivement, on est baigné chez nous dans cette petite ville dans une atmosphère très balzacienne, vraiment. Et quant au personnage, je pense qu'il a pas forcément une envie de réussite. Il a une envie vraiment d'écriture, c'est-à-dire de publier quelque chose. Il en est pas encore à la notion de réussite. Il en est vraiment juste à vraiment essayer de publier quelque chose. Voilà.
Alors il a besoin d'encouragement. Et le premier de ses lecteurs, alors c'est très drôle également, parce que les voitures ont une fréquence d'apparition assez régulière.
Oui, c'est rigolo.
Dans cette ville, 15 000 habitants tout de même. C'est pas tout à fait, c'est pas le hameau de...
Non, mais c'est une petite ville de province comme il y en a beaucoup, quoi.
Et c'est celui qui va devenir son meilleur ami, qui semble être un homme loyal et qui ne juge pas. C'est le plombier.
Laurent.
C'est Laurent, hein.
Laurent, voilà, qui est plombier. C'est le seul qui connaît le secret de notre héros et qui a l'occasion de le lire parce que effectivement, vous parliez des voitures et régulièrement, ils font des séances de lecture dans la voiture de Laurent et
justement il y avait un intérêt.
Exactement.
C'est secret.
Et voilà. Et donc il fait lire ses semblants de poèmes, de nouvelles parce qu'il est foutraque, hein. Il mélange tout. Il finit jamais un texte en fait. Voilà. Il ne finit jamais un roman, jamais une nouvelle, jamais un poème. C'est que des petits bouts de texte, mais il les lit à son copain Laurent dans la voiture le soir en fumant des clopes et en buvant des coups. Et voilà. Et donc, c'est vraiment le secret. Ça reste... Et Laurent, effectivement, qui n'est pas du tout lecteur, qui s'intéresse pas beaucoup à la littérature, mais qui aime bien son copain, il l'encourage comme il peut et il lit ses textes avec plaisir. Voilà, c'est le seul lecteur de notre héros pour l'instant.
Alors, il est non seulement curieux de ce qu'écrit son ami, d'une part, d'autre part, il est un des premiers à l'encourager. Alors après, il y a un autre personnage marquant et j'allais dire presque
qui va être la clé du roman, qui va être la clé de qui va déclencher chez notre héros l'envie de réellement écrire sérieusement, de réellement changer quelque chose dans sa vie pour essayer de lui plaire. Et cette personne, c'est Olivia, c'est une jeune fille qui vient d'un milieu assez aisé, qu'il va rencontrer par hasard à la terrasse d'un café lors de cette fameuse foire de Toussaint qui a lieu tous les ans dans cette petite ville. Elle est avec sa famille, leurs regards vont se croiser, puis bien sûr un jour ils vont réussir à se rencontrer. Et elle vient vraiment d'une classe sociale complètement différente de la sienne. Et son père est chef d'une grande entreprise et elle va être attirée par ce garçon, effectivement, avec tous ses travers, ses failles, ses doutes,
ses désordres intellectuels aussi.
Exactement, ouais. Et elle va l'encourager à écrire.
Elle canalise son talent. Elle est une sorte de muse. Et surtout, c'est qu'elle lui donne à la fois de l'intérêt. Elle est sincère, mais aussi beaucoup d'affection et d'amour. Parce que
c'est une vraie histoire d'amour. Entre eux, c'est vraiment un
grand amour. En dépit de la dissonance sociale.
Exactement. Lui, il en parle souvent. Ça le gêne. Dans les premiers tiers du roman, il évoque déjà cette gêne de différence de classe. Et il répète souvent, les classes ne se mélangent jamais, les classes ne se mélangent jamais. Et finalement, c'est vrai, quelque part. Alors, les classes qui sont... on va dire à touche-touche, hein, qui sont à peu près dans les mêmes étages, peuvent se mélanger. Les hautes classes et les basses ne se mélangent jamais. Et en cela, c'est aussi un livre un petit peu politique, finalement.
Mais ça se situe aussi, et c'est la réflexion que je me faisais, Guillaume Ledoux, ça se situe, me semble-t-il, dans une France de la fin des années 80.
Ouais, exactement.
Puisqu'il y a encore le franc.
On est encore en franc.
Et j'ai envie de dire que peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pire. Parce qu'il y a encore une forme d'insouciance dans le roman.
Oui, exactement. Il y a une insouciance qu'il y avait encore dans ces années-là.
Nous, on a connu ça, je pense, notre génération.
Et le pire, je crois, pour aller encore plus loin que vous, Yannick, c'est que c'est pire aujourd'hui. Et le pire, c'est que c'est complètement assumé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... par le biais des réseaux, par le biais de plein de choses comme ça, de l'image, où tout va très très vite, où tout va beaucoup plus vite, ce refus d'une classe inférieure est complètement assumé, et il y en a même qui font même une fierté. Mais quand je dis ce refus de côtoyer une classe inférieure, c'est même pire que ça, c'est que je parle même de phobie. Hein, de phobie, que ça soit de l'homophobie, que ça soit de la grossophobie, que ça soit de tout ça. Aujourd'hui, les gens qui assènent des choses comme ça extrêmement violentes le font vraiment, mais extrêmement sincèrement. Et c'est terrible. Et ça, effectivement, on avait passé dans ces années-là, je suis d'accord avec vous.
Notre duo amoureux ne communique pas. Il n'y a pas de téléphone portable.
Non, on appelle chez les parents.
On appelle chez les parents, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'intimité. Justement, je reviens sur un aspect social du roman, c'est que notre jeune héros de 22 ans, et Olivia à peu près le même âge, un peu plus jeune, je crois.
Ouais.
Il y a ce que vous appelez l'univers du bar que côtoie, alors de manière presque addictive, notre... Alors, il est addict à l'écriture, au langage, aux mots... toujours à la recherche d'intrigues, d'histoires, parfois tarabiscotées, tantôt drôles, alors qui va relever de l'épique, qui va relever de la romance, du conte de Noël ou de l'anticipation, avec notamment la nouvelle avec les pingouins.
Ouais, ouais.
Les pingouins qui sont de nouveaux envahisseurs. Et alors, il y a quand même ce thème du bar,
oui,
qui est un lieu... sorte de cirque où on peut côtoyer, et là encore, ça fait très 19e siècle, où le bar est un lieu où l'on vient puiser tout de même.
Exactement.
Des types de personnages.
Notre héros, il a un côté, et c'est en cela qu'il est différent un peu de tous les, on va dire, les cas sociaux, faut bien le dire, qu'il fréquente dans ces bars-là. C'est que il se prend pour un ethnologue, un petit peu. Et il a un côté blondin. Vraiment, il a un côté blondin, c'est-à-dire que lui, il dit, je vais dans les bistrots pour récolter des anecdotes, pour glaner des choses, des sentiments, des images. Il consigne tout ce qu'il entend, les bonnes blagues, les mauvaises, tout ça. Et il joue effectivement le blondin qui se met en immersion. Sauf que effectivement notre héros, l'immersion, il sait faire et il le fait. Il fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire que il y va avec tous les autres et il se fait un petit peu passer pour l'un des leurs. Et donc. Donc il est tenté par effectivement tous leurs abus et il y va.
Il est ambivalent parce que en fait la semaine il est le jeune homme alors qu'il travaille à l'usine de Godas Anselme, c'est la seule entreprise à peu près de enfin qui
la
recrute
l'usine
véritablement
de la
par
ville, quoi.
Par intérim. Donc la semaine il traîne les bars, le narval et la coquille. Et le week-end il est beaucoup plus en maîtrise de lui-même puisque là il est aux côtés d'Olivia.
Voilà.
Là il est à la fois l'amoureux, il est aussi l'écrivain débutant coaché par celle qu'il appellera plus tard son éditrice, c'est assez amusant. Et puis ce qui est amusant aussi, alors je reviens sur le narval, le patron du bar, il l'appelle, son prénom en fait, c'est Gérard, c'est ça?
Oui, oui.
Il l'appelle Gérard de Narval et d'ailleurs voilà, il écrit, exactement. Il n'a jamais compris pourquoi.
Voilà.
On va rester sur cette petite note humoristique. Je rappelle que c'est Guillaume Ledoux qui nous accompagne jusqu'à midi dans Wagon Livre sur Radio N pour son premier roman intitulé Colza et qui est toujours disponible aux éditions du Cherche Midi. Peut-être nos auditrices et auditeurs ont-ils le droit de boire un Blancas pendant la pause musicale que nous leur offrons.
C'est l'heure de l'apéritif.
C'est l'heure et on se retrouve juste après avec Guillaume Ledoux.
Dans son café rêveux, un nuage de lait. Puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. Il y avait en ville des miroirs au pavé. C'était un jour de pluie et de vitrine en cours. J'étais comme le ciel étendu sans nuance. Ma valise était faite, une embellie passait. Je n'attendais personne, j'aimais bien ce silence. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure où tout a basculé. L'instant précis même du malheur quand le téléphone a sonné. Le jour et l'heure, le lieu précis de la douleur. Tout ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance. Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient. Il y avait dans l'air un parfum d'insouciance. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure où tout a basculé. L'instant précis même du malheur quand le téléphone a sonné. Le jour et l'heure, le lieu précis de la douleur. De ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je sais que l'on n'oublie jamais. Le jour est là. Quand le téléphone a sonné, le jour est là. Longtemps après, l'on s'en souvient de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, et ce à tout jamais.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Revenons avec notre invité Guillaume Ledoux, chanteur du groupe Blancas, alors qui est aussi peintre. Nous ne l'avons peut-être pas suffisamment mis en lumière au début de notre échange, Guillaume. Vous êtes peintre, vous exposez régulièrement un peu partout en France. Alors, c'est même pas une peinture de vous sur la couverture
non,
de votre premier roman, mais c'est une honte.
C'est un ami. Oui, mais j'avais vraiment envie d'un champ de colza. Et il se trouve que j'ai un ami qui habite vraiment au cœur du Berry, à La Châtre, et qui ne peint que les champs qui va autour de chez lui, de sa maison. Il s'appelle Louis Jourdan, je l'aime beaucoup, et je lui ai demandé un tableau d'un champ de colza.
Alors, voilà. Paysage plat, d'ailleurs, dans votre roman, vous écrivez un paysage plat C'est comme une colère silencieuse.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oxymore.
C'est vrai, parce qu'en fait, on a tendance à dénigrer finalement les paysages plats, mais finalement, en creux, ils peuvent résonner de la même façon que des fracas de roc et de lave. Voilà. Sauf que, effectivement, les choses ne se voient pas. Et finalement, c'est peut-être pire encore. Et effectivement, il se passe des drames aussi bien dans les pubs irlandais que dans les plaines du Berry, finalement. Et cette phrase, je me la suis piquée à moi-même, en fait, d'un recueil de poésie que j'avais fait il y a quelques années avec le peintre Louis Jourdan, justement. Et c'était juste une phrase au milieu d'une page qui disait un paysage plat comme une colère silencieuse. Et je disais à peu près dans les mêmes pages que les raisins de la colère ne poussent pas que dans les contrées lointaines. Et c'est la vérité.
Alors, il y a ce ministère de l'apéritif. On a parlé de ces bars, donc le Narval et la Coquille, où notre héros, jeune écrivain... comment dire, en ébullition et qui a besoin d'être un peu canalisé et d'être pris en main, notamment par cette charmante jeune femme qui est Olivia, qui est étudiante en histoire de l'art. Il y a toute une série de personnages. Raffia, la Boulange, Karam, Koto, alors après il y a la Gitane, Milou, la Fouine et j'en passe. Vous aussi, Guillaume, ce sont des personnages sortis un peu de l'observation d'individus pittoresques dans les bars récemment,
oui.
Ou des souvenirs de jeunesse?
Non, des souvenirs, ouais.
Des souvenirs.
Oui. Il y a des gens que j'ai qui ont réellement existé dans cette bande de bras cassés, ouais, vraiment. Ouais.
Alors, boire, page 89, vous écrivez « Boire, c'est une façon de dompter la tristesse du monde quand on ne le fait pas pour oublier, mais pour se souvenir qu'on existe. »
Ouais, je le pense, ouais, réellement, oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut surtout pas boire pour oublier. Il faut boire pour être présent et pour se souvenir qu'on existe. Je pense que effectivement, il y a une grosse différence entre l'ivresse d'un Hemingway ou d'un Harrison et l'ivresse d'une dépression ou d'une tristesse, quoi, vraiment, quoi. Je pense sincèrement, ouais.
Alors, il y a un personnage aussi haut en couleur qui a un destin un petit peu tragique, je n'en dis pas plus, c'est le père Court.
Mmh, ouais, le père Court, ouais, c'est.
Alors ça, c'est pure invention ou c'est un
non,
personnage?
Alors, c'est un personnage que j'ai connu à Issoudun, qui était un peu comme ça, qui faisait des tours de magie, qui traînait les bars aussi. Il s'appelait pas Jean-Pierre Court, mais oui, il faisait réellement ça, et ça, je l'ai vu le faire. Il le faisait souvent. Il demandait aux gens en terrasse de bar ou même n'importe où, hein, en disant je vais faire un tour de magie, prête-moi une pièce de 10 francs, je te la rends. Et donc les gens lui donnaient une pièce de 10 francs et il l'avalait. Et il disait je vous la rends demain. Donc bien sûr tout le monde lui disait gardez-la, sauf qu'il ne l'avalait pas bien sûr, il repartait avec plein de pièces de 10 francs dans la bouche. Et voilà, et c'était, moi je trouvais ça charmant et drôle, quoi, voilà, quoi. Il mangeait du verre aussi.
Mais là, c'est...
C'est une sorte de fakir. Pourtant, c'était un vieux berrichon, mais voilà, c'était un personnage haut en couleur.
Alors, un homme talentueux aussi à sa manière, puisque une sorte de petite cour d'individus pittoresques, peut-être parfois un peu pathétiques.
Ah ben, bien sûr, il y en a. Le roman commence par une phrase qui est à l'époque du roi Jean. Ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, effectivement, on ne sait pas du tout à quelle époque on se trouve, jusqu'au moment où on parle à la deuxième page d'un plein d'essence ou d'une cigarette. Donc, effectivement, là, on sait qu'on est plutôt à une époque moderne. Et le roi Jean, c'est un des pires de cette bande de bras cassés. Et lui, c'est vraiment un loser. Lui, on est bien d'accord. Lui, c'est vraiment un des pires. C'est vraiment un méchant. C'est vraiment un sous-l'eau. Et voilà, quoi.
Il suinte la débilité sous son jogging.
Exactement.
Alors, il y a un personnage qui choisit de mettre fin à ses jours. Et je lis cette phrase. C'est le narrateur, notre jeune homme, hein, donc bon, 22 ans, qui écrit « Je crois que certains suicides sont comme un accident de voiture. Si on passe le virage, on est sauvé. »
Ouais, je pense. J'ai certains amis qui ont mis fin à leur jour et d'autres qui... enfin, certains d'entre eux étaient vraiment décidés, je pense. Et d'autres, je pense que si quelqu'un avait frappé à leur porte à ce moment-là, le virage aurait été négocié. J'y connais rien. Je suis pas psychiatre. Je sais pas du tout. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui malheureusement ont réussi leur coup alors qu'ils n'avaient pas peut-être vraiment envie de le faire, quoi. Voilà.
Alors, j'ai envie de vous soumettre aussi cette autre réflexion là du philosophe d'origine roumaine Cioran, alors qui est quand même plutôt un pessimiste et qui écrivait « On se suicide toujours trop tard ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait rire?
Peut-être. Ouais. Quand on est décidé, oui, peut-être.
Alors, revenons à l'écriture. Parce que je me disais, Guillaume Ledoux signe là avec Colza son premier roman. Il met en scène un jeune provincial qui rêve d'une carrière d'écrivain américain.
Ouais.
Alors, pourquoi pas une carrière de grand écrivain français, je pense. Alors, dans les plus anciens, Maupassant, Balzac, Gide, prix Nobel de littérature, Saint-John Perse aussi.
Parce qu'il fait un moment, il fait la comparaison entre sa province perdue et le Montana. Et il est fasciné par ces écrivains américains qui vivent dans un milieu complètement hostile et sauvage et qui font des best-sellers et qui envoient leurs manuscrits à leur éditeur et qui continuent à vivre dans leur ferme au fond des bois. Et lui, il adore ça. Il est fasciné par ça. Et vu qu'il vit dans un milieu extrêmement rural et on va dire un peu désert, hein, on va dire dans la diagonale du vide, comme on dit en ce moment, il fait la comparaison entre lui et ses Américains sauvages et ermites.
Alors, il a eu la chance, notre jeune héros. Je lis juste un court paragraphe, ouais. Extrait de Colza. Donc, c'est notre jeune écrivain en herbe qui dit ceci. « Mes parents lisaient de tout, laissaient traîner des livres dans lesquels je plongeais, et grâce à eux, je courais dans les montagnes de Provence en posant des pièges à oiseaux, où j'étais celui qui avançait avec une vipère à la main. » Et vous, Guillaume Ledoux, il y avait des livres autour de vous?
Oui, bien sûr.
Jeunesse, beaucoup.
Bien sûr. Non, mais ça, effectivement, rentrer dans le vif du sujet, le roman est une fiction. Le personnage, c'est absolument pas moi. Il est fils unique. Il n'est jamais question de musique, de choses comme ça. Mais je me suis servi de souvenirs personnels, effectivement, pour créer un personnage, quoi. J'ai joué un peu à mon Frankenstein que j'adore. Le roman de Marie Shelley, je suis un fan. Et voilà. Et donc, je me suis servi de différentes parties de moi-même pour créer un personnage qui n'existe pas et de souvenirs ou même de parties de plein de gens différents, bien sûr. Et voilà, quoi. Donc, ce n'est pas moi, mais effectivement, chez moi, il y avait des livres partout. Et il est vrai que je suis rentré en littérature, comme on dit, en admiration devant l'écriture, à 9 ans, quand j'ai ouvert La gloire de mon père, de Pagnol. Voilà, ça a été vraiment, je me suis rendu compte à quel point on pouvait voyager et à quel point je me prenais pour le petit Marcel. Effectivement, j'étais dans les montagnes en train de poser des pièges à oiseaux et puis voilà, ma mère n'était pas folcoche, puisqu'on parle aussi de Bazin et d'ailleurs apparemment on sait aujourd'hui que sa mère non plus n'a jamais été vraiment folcoche.
Sujet sensible, il voilà, exactement. Qu'Hervé Bazin en est raconté
exactement.
Plus, s'est fait plus martyriser qu'il ne l'a réalisé.
Voilà. Hein.
Nous allons marquer un nouvel intermède musical dans notre wagon-lit. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume Ledoux, musicien, chanteur du groupe Blancas. Il est également peintre. Il est avec nous aujourd'hui dans Wagon Livre pour évoquer son premier roman, Colza, paru l'an dernier aux éditions du Cherche Midi. Je rappelle aussi que Guillaume Ledoux a obtenu le prix du premier roman lors du salon Livres en Vigne qui s'est tenu les 27 et 28 septembre 2025. C'est un prix parrainé par le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Merci d'être avec nous. On revient dans quelques minutes. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Ohio, we'll be right back.
ne suis pas si forte que ça. Et la nuit, je ne dors pas. Tous ces rêves, ça ne m'aide pas. Un enfant frappe à ma porte. Il laisse entrer la lumière. Il a mes yeux.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner jusqu'à midi sur Radion. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume Ledoux, peintre, musicien, chanteur du groupe Blancas et primo-romancier, puisque nous mettons aujourd'hui un coup de projecteur sur son premier roman paru l'an dernier aux éditions Le Cherche Midi et qui a pour titre Colza, roman qui a d'ailleurs été récompensé lors de la 18e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon par le prix du premier roman, un prix d'ailleurs parrainé par le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Je rappelle aussi que cet entretien a été enregistré le 18 décembre 2025, alors que notre invité était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Les débuts littéraires, alors, donc effectivement, votre jeune héros aussi. Il y a tout de même l'idée de l'argent, parce qu'il dit, et je m'étais dit que gagner de l'argent avec une création artistique n'était pas une mauvaise idée. Alors c'est amusant parce qu'il a le souvenir d'avoir enfant fait un dessin pour un concours de Noël et il avait gagné 20 francs.
Voilà.
Et le thème de gagner sa vie est tout de même un peu sous-jacent. Parce qu'il est dans une vie précaire. Heureusement, il vit chez papa-maman.
Oui.
Mais il a le sentiment quand même, par rapport à Olivia, qui vient d'un milieu, on va dire, nettement plus bourgeois, et dont les fréquentations sont plus soignées que celles du narval ou de la coquille, il a ce petit sentiment de gêne à l'égard du père d'Olivia, ou d'Olivia elle-même, qui lui apprend des choses. Parce que il ne sait pas tout en art.
Non, pas du tout.
Et souvent, il fait croire qu'il sait, alors qu'il est totalement ignorant.
Exactement.
C'est pour ne pas perdre la face.
Exactement. Et puis, non seulement cette différence, effectivement, de classe, et aussi le fait qu'il s'ennuie profondément, il travaille à l'usine de Godasse, comme vous disiez, et il en a vraiment, vraiment marre. D'ailleurs, à un moment, il va claquer la porte, mais effectivement,
il refuse un CDI.
Oui, enfin, il en signe un, il refuse 3 jours après, et effectivement, il se dit que peut-être un jour, en étant publié, il pourrait peut-être gagner sa vie et aller voir ailleurs d'autres couleurs, d'autres contrées, comme il dit, mais pour mieux revenir, parce qu'en fait, cette ruralité, il en parle, il parle des freins qu'elle peut imposer, mais par contre il l'aime, il en a besoin, il aime cette petite ville, petit modèle.
Il a besoin de changer d'air.
Exactement, et partir pour mieux revenir, c'est ce qu'il dit.
Alors est-ce que comme lui, page 17, j'ai lu, j'avais accumulé, devenu adulte, une bonne pile de papiers inutiles. Et vous, Guillaume, il y a chez vous des piles de papiers inutiles, de textes, des ébauches de textes abandonnés, conservés.
Non. Alors beaucoup de factures,
oui,
alors, voilà, ou d'ordonnances de prise de sang non honorées. Mais ça, c'est des piles, voilà. Mais non, quand j'écris toujours. Alors ça, c'est peut-être que c'est pas bien, je sais pas du tout. Effectivement, je prends rarement de notes de choses comme ça. J'écris toujours quand je dois écrire une chanson, des paroles de chanson, j'écris c'est, pour c'est cette chanson.
C'est plus difficile qu'un roman écrire voilà. des paroles de chanson.
Oui, oui, c'est vrai. C'est, on a moins de liberté, vraiment. C'est, voilà, c'est une écriture contrainte. On doit rentrer dans les cases, dans le nombre de pieds. C'est comme c'est, voilà, c'est comme un poème, sauf que en plus il faut rechercher le son, le mot qui crache, qui sonne bien. C'est plus dur aussi que la poésie finalement, parce que la poésie, elle peut être très libre. Et même si on écrit de la poésie très classique avec des phrases qui riment, on se rend compte d'un truc parfois, c'est qu'on écrit un très beau poème sur le papier et quand on le met en musique, ça ne sonne pas du tout. Donc voilà, donc la chanson, c'est vraiment, il faut trouver la musicalité des mots et les assembler d'une façon presque mathématique.
Alors justement, Guillaume Ledoux, à un moment dans le roman, votre personnage, il a beaucoup de nostalgie. Hein, ouais. Pourtant, il est très jeune, hein, il a 22 ans, mais il est déjà un peu nostalgique. Ouais. Mon Dieu, quand il aura plus de 50 ans.
J'étais comme lui,
ans,
en fait. Je crois que j'étais comme lui, en fait. Je me rappelle très jeune de souvenirs d'enfance mais la nostalgie a toujours été un moteur pour moi.
Mais est-ce que c'est pas
vraiment,
le propre de l'artiste?
Elle m'a jamais rendu mélancolique, la nostalgie, vraiment. Au contraire, ça a toujours été un moteur.
Et justement, il parle de l'apprentissage de la poésie dont il garde des traces, des souvenirs. Et vous, Guillaume, vous avez des souvenirs très forts d'une poésie dont vous vous souvenez l'avoir récitée devant la classe, devant les camarades à l'école primaire?
Bien sûr, bien
alors,
sûr.
Alors des bons souvenirs ou alors d'horribles souvenirs du genre je me rappelle plus du début, j'arrive pas à m'en
Non, passer. J'ai plutôt de bons souvenirs de mais même en tout vraiment dans les petites classes et des bien sûr de Maurice Carême de Vigny, de tout ça, voilà quoi, des bons souvenirs de poésie. Et j'ai un souvenir terrible par contre en poésie, c'est qu'effectivement quand j'étais au collège, j'avais commencé à écrire de la poésie. Et puis un jour, la prof, Madame Choquet, elle s'appelait, je me rappelle, Madame Choquet, elle était tombée sur un poème que j'avais écrit, où j'étais en train d'écrire à la table, et elle me l'avait subtilisé. Et je me rappelle encore qu'il s'appelait La Maison Abandonnée. Alors c'était vraiment très ringard, ça parlait d'une vieille maison dans les bois, voilà, qui faisait peur et qui était abandonnée. Bref. Et elle s'est mise en tête, et elle l'a fait, de faire apprendre ma poésie à la classe et de noter les élèves comme avec une poésie de Maurice Carême, quoi. Et donc c'était terrible pour moi. Mais alors bien sûr, moi j'en étais exempté, hein, parce que je la connaissais par cœur. Mais les autres élèves allaient au tableau et récitaient ma récitation, mon poème, en étant noté, et ils me jetaient des regards vraiment de vengeance terrible, et j'avais honte. C'était horrible. C'est un souvenir terrible, vraiment.
À un moment, notre écrivain, débutant.
Oui.
Il débute, hein. J'étais débile en vérité. Je pouvais partir très loin dans mes idées vagabondes pendant qu'on me parlait ou que se déroulait une action dont j'étais pourtant l'un des protagonistes. Et alors, un peu plus loin, j'adore ça. Quelle boulangère pouvait imaginer, en me rendant la monnaie, que j'étais en train de me poser des questions sur le goût des fraises pour un lapin ou que j'élaborais à l'instant même une suite pour mon histoire de canapé hurlant? Il y a un côté un peu surréaliste.
Mais oui,
parfois,
parce qu'on se perd tous dans des méandres comme ça, et finalement, on est tous un peu surréalistes parce qu'on a tous des idées stupides, des fois pas stupides, mais loufoques vraiment comme ça, où effectivement souvent on se reprend et voilà. Et simplement, lui, il arrive à le traduire, et ce qui est déjà pas mal finalement, d'arriver à traduire ça en étant conscient de effectivement qu'une personne est en train de nous rendre la monnaie, de nous parler, et nous on est en train de penser à un lapin ou à un canapé qui parle. Je pense vraiment sincèrement que ça nous arrive à tous.
Alors, il a aussi une ébauche de nouvelles qui est l'histoire, aidez-moi Guillaume, c'est le forestier qui trouve un trésor.
C'est un braconnier qui trouve un trésor. Voilà. C'est un braconnier qui trouve un trésor un jour en fouillant les terriers des lapins dans les bois et qui trouve un trésor en pièces d'or et qui se rend compte que ça va complètement changer sa vie. Donc il décide de reboucher le trou, de reboucher le terrier, et il s'efforce d'oublier à jamais l'emplacement de ce tas de pièces d'or. Et là clairement, là on peut en parler parce qu'on est en Bourgogne. Là vraiment, il y a une allusion, même si je me rends compte aujourd'hui, mais au personnage de la Gazette, finalement, dans le Pape des Escargots, chez Vincenot, quoi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de braconnage chez Vincenot, il y a tout ça. Et
alors moi j'y voyais une allégorie aussi.
Mais aussi peut-être.
C'est-à-dire qu'effectivement. Ce braconnier qui refuse de profiter du trésor, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, l'écrivain débutant qui refuse d'aller vers le talent et qui dit « Oh non, finalement, je continue de cacher mes textes. »
Exactement.
C'est un peu ça aussi.
Ah, mais c'est un peu ça aussi, effectivement.
Parce que, est-ce que vous ne pensez pas, Guillaume, justement, avec ce premier roman, il faut le porter à une maison d'édition, il y a les refus, bien sûr,
bien
on essuie des refus.
On a reçu beaucoup de belles lettres de refus, ouais. D'ailleurs.
Et justement... Est-ce que, beaucoup de gens ont la peur d'échouer, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt des gens qui ont la peur de réussir ?
Si, c'est exactement. C'est le problème de... est-ce que c'est vraiment la peur de réussir ? Oui, peut-être un petit peu. La peur d'échouer, certainement, ça c'est sûr. Mais c'est surtout la peur de voir quelque chose, un projet qui finalement reste, tant qu'il est à l'état de projet, reste ludique, et finalement qui va devenir un jour quelque chose de sérieux, qui va devenir une chose sérieuse. Et lui, dans son cas, c'est exactement ça. Il le dit à un moment. Il dit que ça, c'est en train de devenir une chose sérieuse et il en a peur. C'est exactement... il pense exactement comme cette phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, quand Le Petit Prince dit au mécano, il lui dit « Tu parles comme une grande personne ». Voilà, c'est ça, quoi. Finalement, il a peur de devenir une grande personne aussi.
Alors, au Cherche Midi, il y a quelques années, vous avez fait paraître, donc avec votre frère, Johan, et Lydie Baron, un livre CD, Balthazar Tête de Bois, le petit garçon qui voulait réussir sa vie.
Oui, c'était un conte pour enfants qui était vraiment très, très chouette.
Et alors, Guillaume, si je vous dis de manière un peu abrupte, et j'ai conscience que la question est difficile. Qu'est-ce que cela veut dire réussir sa vie aujourd'hui en 2025? Est-ce
alors,
que
je
vous,
pense
vous pouvez
que ça...
dire que vous avez réussi votre vie?
Oui, je pense, parce qu'en fait, pour moi, ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Pour moi, réussir sa vie, c'est pas une question d'argent. C'est réussir à faire ce qu'on avait envie de faire. Voilà, c'est réussir plus ou moins à vivre du rêve qu'on avait quand on était gamin, qui peut être on avait envie d'être mécano et un jour on travaille dans un garage. Bah pour moi, on a réussi sa vie. Voilà. Moi j'avais envie de choses artistiques et aujourd'hui j'en vis.
Je suis pas riche,
mais j'en vis simplement. Voilà, je pense que je vis comme un employé mécano dans un garage, mais je fais ce que j'aime. Et voilà, c'est, pour moi, c'est ça, réussir sa vie. C'est vraiment pas une question de compte en banque ou de grosse maison, je pense pas.
Est-ce que vous rencontrez des scolaires ou des jeunes gens?
Oui, ça m'arrive.
Parfois, justement, pensent que la réussite, c'est le compte en banque.
Oui, mais justement, quand je fais des ateliers, alors je fais souvent des ateliers dans les écoles, surtout pour la peinture, parce que moi j'ai une peinture très enfantine, je peins des gros mousshommes, très très gros, énormes, un peu déformés, et qui sourient toujours, tout le monde sourit. Donc c'est un dessin qui plaît, quand je dis un dessin, parce que c'est vrai qu'il a toujours à peu près la même forme, mon bonhomme, et qui plaît énormément aux enfants. Donc je fais souvent des ateliers peinture dans les écoles, et compter sur moi justement pour leur rappeler que la réussite, c'est plutôt faire ce qu'on rêvait de faire, plutôt qu'avoir un gros compte en banque.
Alors, il est question un petit peu de peinture, notamment une référence à une peinture de James Ensor. C'est au moment d'un enterrement, bon, d'un personnage. Effectivement, il y a une cohorte, c'est tous les clients du narval et de la coquille qui accompagnent à sa dernière demeure un des leurs.
Voilà.
Je n'en dis pas plus. Et effectivement, c'est une sorte presque de joyeuse parade.
Exactement, ça me fait penser justement à cette parade de ce tableau de James Ensor qui s'appelle L'entrée du Christ à Bruxelles. Et il est incroyable, ce tableau, parce qu'il y a une foule de gens et dedans il y a des clowns, il y a des clochards, il y a des soldats, il y a des prêtres, il y a tout mélangé. C'est vraiment assez impressionnant et voilà, et on parle peinture parce que justement Olivia est étudiante en art et elle va essayer de l'initier, elle va l'emmener voir de la peinture, elle va l'emmener dans les musées, voilà quoi, elle va finalement essayer un petit peu de faire son éducation, oui. Voilà quoi.
Elle l'initie et puis à mon avis elle lui apporte aussi un complément parce que tous les deux sont complémentaires.
Bien sûr.
C'est une belle histoire d'amour.
Oui.
Parce que elle est artiste, elle réalise des encres magnifiques d'ailleurs.
Mais elle ne le dit pas, ouais. Voilà.
Elle en offre une et lui dit que c'est le plus beau cadeau qu'il a jamais eu.
Ouais.
Depuis l'âge de 7 ans, à part sa, je sais plus, sa grue téléguidée.
Sa grue téléguidée.
C'est ça. Et lui, il lui offre en tout cas ses textes. Que Olivia, alors en plus elle est sévère, hein, ça on garde pas,
ouais, voilà,
ça c'est pas bon, ça
ouais,
c'est
ouais.
Très bien. Donc il est guidé, il en a complètement besoin puisqu'il est un peu feu d'artifice et il dit d'ailleurs lui-même qu'il a du mal à se discipliner par rapport à ces histoires,
sûr, hein.
Même s'il y a des petites étincelles qui sont absolument géniales. Alors très belle réplique à un moment. Justement, c'est en lien avec l'inspiration. Votre jeune romancier débutant, enfin, il est plutôt nouvelliste, hein, en fait. Il écrit des nouvelles.
Oui, parce que justement, sur les conseils d'Olivia, comme il écrit des textes plutôt courts, elle lui conseille de commencer par la nouvelle. Et donc, voilà. Donc, il se met en tête d'écrire un recueil de nouvelles. Voilà.
Et alors, il confesse à Olivia. Je le cite, c'est une sorte de vol puisque j'utilise les gens que je connais pour en faire des personnages dans des histoires qui n'existent pas. Et elle a cette réplique superbe, c'est un vol utile, un vol généreux.
Oui, c'est vrai.
C'est magnifique.
Oui, elle a le sens de la formule et de la réplique, elle est vraiment brillante. Et c'est vrai que cette idée de vol généreux me plaisait bien parce que, effectivement, quand on crée quelque chose, ben on va voler un petit peu de quelque chose des gens.
C'est un emprunt.
S'inspire, bien sûr, c'est un emprunt. Voilà, exactement.
Pas du vol, c'est un emprunt.
Mais voilà, effectivement, même dans mes chansons, des personnages que j'ai observé, j'en ai tiré quelque chose, une image. Même quand on est en train de peindre un paysage, finalement on est en train de prendre une photo volée par exemple, c'est une expression qui existe, une photo volée, voilà, c'est un peu ce truc là et c'est vrai que le vol généreux est assez rigolo. D'ailleurs ça, l'expression va lui rester puisque à un moment après, quand ça va plutôt mal tourner avec Olivia, il va se rappeler de ces mots là et ça va lui faire vraiment énormément de mal.
Il écrit: je comparais souvent le premier jet d'un récit à un animal qu'il faut dresser.
Ah oui.
Vous
alors
aussi,
ça, ah ouais, moi aussi, quand on a une nouvelle chanson, ouais, c'est vraiment ça. Faut la dresser, cette chanson, vraiment.
Et puis alors, ça, un petit commentaire, Guillaume. Alors, c'est un peu retiré du contexte. C'est page 221, précisément, dans votre roman, dont je rappelle le titre, Colza aux éditions Le Cherche Midi. Le stupide pouvait être magnifique. Alors, moi, je connaissais la maxime baudelairienne, le beau est toujours bizarre. Et j'ai envie de dire, Guillaume Ledoux nous dit, le stupide peut être magnifique.
Oui, parce que lui, il est comme il dit, je sais plus exactement, le chercheur du dérisoire. Voilà, il consigne toutes ces anecdotes qui ne servent à rien pour le moment, mais effectivement, il est attiré par l'inutile, le futile, le dérisoire, le banal, le petit, le néant. Il est attiré par le néant, bien sûr. Et voilà. Et il est comme un spectateur qui exactement quand on regarde des clowns à l'ancienne dans un cirque, un Auguste qui se fout des coups de pied aux fesses, qui fout des coups de pied aux fesses à un autre clown, et finalement c'est tellement futile qu'on en rit et c'est dérisoire. Et lui, il essaye de trouver cette émotion qu'on a au cirque dans la vie de tous les jours, dans le cirque de la rue.
Observer, voir, ça c'est une attitude alors de curieux, mais aussi de peintre et de primo romancier vraisemblablement. Il y a par exemple une nouvelle à laquelle votre jeune héros est attaché. Enfin, il ne l'a pas encore écrite, mais il aimerait l'écrire. C'est celle de l'ours qui veut raconter comment vivent les hommes dans un village. Mmh. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a une autre nouvelle que j'aime énormément. C'est celle... Parce qu'il faut dire que le roman, Oui. Les nouvelles sont intercalées.
On doit effectivement dire aux auditrices, aux auditeurs que dans le récit, il y a des passages en italique et ce sont ces essais d'écriture. Donc c'est des petits bouts des nouvelles qu'il est en train d'écrire. Au début, c'est vraiment il part dans tous les sens, hein. C'est un peu débile. Il parle d'une invasion de pingouins dans la première nouvelle, voilà.
Moi j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Pingouins qui bouffent tout.
Et son style va s'affiner.
Et on peut même pas les manger parce qu'ils ont un goût de sardine.
De graisse rance, ouais, de sardine. Alors, voilà.
Très très belle nouvelle aussi, très intéressante sur quelque part l'avenir et le devenir d'un livre.
Oui. Oui, c'est une des dernières qu'il écrit.
Je vous laisse en parler.
Oui,
je la trouve très émouvante.
C'est les souvenirs d'un livre qui est acheté chez un bouquiniste et ce livre raconte sa vie. Il dit qu'il a servi trois fois il est sorti dans les années 20, on est dans les années 80. Ce livre a servi dans sa vie, il dit qu'il a servi trois fois de cale pour une table, il a été jeté à la figure de deux malotrus, il a été offert trois fois, parfumé une fois. Il a une autre idée de lui-même et un jour, il est acheté par une jeune fille à l'étal de ce bouquiniste sur les quais à Paris et il la trouve très douce, il pense que c'est une fille de très bonne famille et finalement, il finit échangé contre une bande dessinée chez un autre bouquiniste.
Alors, on ne souhaite pas le même destin à ceux auront entre les mains. Moi, je l'ai entre les mains déjà dédicacé puisque nous nous sommes rencontrés lors de livres en septembre 2025 au château du Clos de Vougeot. Colza, donc premier roman de Guillaume Ledoux aux éditions du Cherche Midi. Merci Guillaume.
Merci Yannick. Merci, avec grand plaisir. C'était très agréable, vraiment.
Et puis pour ceux qui ont raté, ce qui est fâcheux d'ailleurs, mais pour ceux qui ont raté notre échange, ils le retrouvent en podcast sur yannickpetit.fr.
Voilà.
Et on le leur pardonnera.
Exactement.
Au revoir Guillaume.
Au revoir.
Je salue toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous écouter et je leur donne rendez-vous samedi prochain.
Merci.
Toujours à 11h sur Guillaume.
Sur Radio One FM. Radion. Sur Radion FM.
Ah, Radio One FM, c'est pas mal aussi.
Non, Radion, c'est Radion.
Radion FM. Merci Guillaume.
Merci. Belle année 2026 à toutes et
Absolument.
Tous.
Absolument. On peut le souhaiter à chacune et chacun. Au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir.